On va parler justement de la panne d'écriture.
Après la panne de chauffeur.
Après la panne de chauffeur. De l'angoisse de l'écrivain. Carina, vous la connaissez forcément. Vous avez forcément lu La quête des livres monde d'Oregon, Phoenix, La symphonie des abysses, La quête des pierres de Luet et Le feu secret. J'espère que vous avez lu tout ça. Et aussi Le guide des 100 plus belles plages du monde. Ça, c'est encore un autre domaine.
Voilà. Oui, c'est moins créatif.
Alors, pour tout vous dire, quand on préparait la table ronde, la panne d'écriture, l'angoisse de l'écrivain, ma première idée, c'était qu'il y ait des choses très techniques sur l'inspiration, sur la page blanche. Vous savez, ces espèces de mythes là, qui se diffusent de l'auteur qui un jour se met devant son ordinateur et qui est sec, qui n'a plus rien à raconter. Et puis Carina, elle m'a dit, mais absolument pas. C'est pas de ça dont je veux parler. Moi, j'ai une petite angoisse. J'ai une grosse angoisse, ça a créé une panne, mais c'était autre chose. Oui, tu peux nous dire pourquoi ? Vas-y.
Alors, en fait, l'idée de cette table ronde est venue quand Stéphanie Nico a vu sur mon blog que j'avais expliqué que l'année dernière, j'avais pas écrit pendant plusieurs mois, que j'étais incapable de le faire. Et donc, elle m'a envoyé un email en me disant « c'est un sujet intéressant, est-ce qu'on n'en parle pas souvent ? Est-ce que tu accepterais d'en parler ?» Donc voilà, donc, j'ai dit oui, je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. voilà, donc l'idée c'était d'expliquer pourquoi est-ce que j'avais pas réussi à écrire pendant plusieurs mois. Donc là, c'est plus une question de panne, genre j'ai plus d'idées, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter dans la suite de ce roman. C'était vraiment l'incapacité totale d'écrire. Pendant 6 mois, j'ai pas écrit.
6 mois, ouais. Quand même. Donc les 6 premiers mois de 2015.
Ouais, entre janvier et juin, j'ai pas écrit.
D'accord. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je sais très exactement pourquoi. En fait, j'ai écrit quasiment 20 livres en moins de 7 ans à l'époque. Je devais être à 18 en moins de 7 ans, ce qui est beaucoup, ce qui demande un rythme d'écriture et de création assez intense. Aussi, de se donner un rythme de vie qui est lié qu'à l'écriture. Et je suis arrivée en janvier épuisée, vraiment épuisée. J'avais rendu des manuscrits, j'avais des nouveaux éditeurs qui me démarchaient pour des nouveaux projets, Screenio et Gulfstream, et j'étais super emballée à l'idée de commencer des nouvelles aventures avec eux. Donc tout allait bien, je pouvais dire qu'en soi le contexte créatif était positif, mais j'étais épuisée. J'avais plus rien dans le ventre. C'est-à-dire que pour moi l'écriture c'est lié aussi à des tas de choses qu'on donne dans le texte pour les lecteurs, des émotions, des histoires, des images. Et j'étais à sec, complètement à sec. Je pense que j'avais sorti tout ce que je pouvais en 7 ans et que j'avais écrit énormément d'histoires, que j'avais essayé de faire passer beaucoup d'émotions. J'étais complètement au bout du rouleau d'un point de vue de ce que je pouvais offrir aux lecteurs. Voilà. Donc j'avais des idées, j'avais des propositions de nouveaux projets, j'avais des contrats qui pouvaient être en cours. Et je ne pouvais plus écrire.
Une sorte de burn-out de l'écrivain.
Mais complètement, complètement. C'était un rythme qu'on est nombreux à avoir. Hein. Je ne suis pas le seul cas. Quand on voit les auteurs français qui sont ici, on peut parler avec eux, on va se rendre compte qu'on est nombreux à devoir écrire beaucoup de livres pour pouvoir vivre. Et que ça demande un rythme d'écriture, une diversité des histoires, beaucoup de contrats différents avec différents éditeurs pour pouvoir avoir... Parce qu'il faut qu'on mange quand même, donc voilà, et ça nous demande un rythme d'écriture très intense. Et je suis arrivée au bout de ce que je pouvais donner l'année dernière.
Globalement, qu'on comprenne bien, ce trop-plein de projets, est-ce qu'il est lié à un espace créatif très fort chez toi, ou est-ce qu'il est lié simplement à une nécessité, comme tu disais, quelle est un peu la situation des écrivains français ?
Alors, il est lié à une grosse créativité, j'ai beaucoup d'idées, j'en ai encore. Pour dire, depuis que j'ai repris l'écriture à la fin juin de l'année dernière, j'ai bouclé 5 ou 6 romans, je crois. Donc pour dire qu'une fois que j'étais remis sur les rails, c'était reparti, hop, c'est bon. Mais donc là, au niveau de la créativité, je me plains pas, j'ai ce qu'il faut en termes d'idées. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation, en France, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de presse qui est faite autour de ça, des auteurs qui s'expriment sur le sujet, et je trouve que c'est très bien, c'est qu'on est dans une situation de grosse précarité. Que certains auteurs peuvent peut-être se permettre d'écrire un roman par an et ça leur suffit pour vivre. Et la plupart d'entre nous, on va dire l'auteur lambda, où on est tellement nombreux, où on est la majorité, ne peut pas se permettre d'écrire qu'un roman par an pour pouvoir vivre. Donc il faut en publier 3-4 par an pour espérer avoir suffisamment de quoi payer ses factures etc. Donc ça, alors quand on a des idées, ça va, c'est pas grave, hein, on produit et tout va bien et on a ce qu'il faut en matière. Mais je pense que c'est effectivement, à terme, moi je me suis retrouvée usée, complètement usée.
Donc une problématique financière,
voilà, clairement, mais bah, après, c'est aussi un métier, hein, donc il faut parler des choses telles qu'elles sont. Je vois pas pourquoi ça serait tabou d'en parler alors que c'est aussi notre métier et que tout le monde ici pratique un métier en. Peut-être parce que ça l'intéresse, mais aussi parce qu'ils ont besoin de manger à la fin du mois. Donc
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu gagnes ? Parce que les gens ne sont pas forcément au courant des contrats d'édition tels qu'ils sont faits. Comment est-ce qu'un auteur est payé sur un livre ?
Alors, un auteur est payé en pourcentage. En particulier, en jeunesse, on est moins payé qu'en vieillesse. si on arrive à gratter 8%, on est content. Il y a même des éditeurs qui proposent 5-6%. Donc, ce n'est pas beaucoup. Souvent, sur un livre, ça fait moins d'un euro par livre. Ce qui fait que pour pouvoir en vivre, il faut vendre beaucoup, beaucoup de livres pour espérer faire quelques milliers d'euros qui seront nécessaires à boucler notre budget. Alors, on a les avances, les avaloirs, qui peuvent se situer entre, dans la moyenne générale, 2000 et 3000 euros. Donc, ce n'est pas beaucoup, parce que souvent, pour écrire un roman, il faut 3, 4, 5, 6 mois. Et personne ne travaillerait 6 mois pour 3000 euros. Donc, nous, on le fait quand même. Et puis ensuite, une fois que le livre est sorti, il faut que l'éditeur se soit remboursé notre avance pour pouvoir commencer à toucher des droits d'auteur. Donc si jamais on ne vend pas assez de livres pour pouvoir rembourser à l'éditeur cette avance qui nous a été faite, on ne touche rien sur le livre. Ça veut dire qu'on peut avoir été payé 3000 euros d'avaloir et c'est tout. Voilà. Si le livre ne va pas au-delà. Donc c'est pas beaucoup. C'est des conditions qui sont difficiles. On n'a pas de sécurité sociale qui sont pris à la source, donc on paye la sécurité sociale de notre poche, on paye la mutuelle de notre poche. Voilà, c'est des choses qui... On n'a pas de chômage, on n'a pas de... Voilà, moi j'ai été opérée il y a 2 mois, j'ai pas de congé maladie. Je suis restée allongée 3 jours et après je me suis remise devant mon ordinateur pour pouvoir travailler parce qu'on n'a pas le choix. Bon, dans mon cas, c'était pas très contraignant, mais je me souviens d'un exemple d'un dessinateur de BD qui en avait parlé sur Facebook, qui expliquait qu'il avait eu un problème au poignet, qu'il pouvait pas dessiner pendant des mois et qu'il a pas pu avoir une compensation par la sécurité sociale alors que c'était considéré comme un accident du travail. Mais en tant qu'auteur, on n'a pas tous ces avantages. Donc on a quand même une situation sociale qui est, quand on dit précaire, c'est la réalité, je pense. Hein. On n'a pas de salaire, on n'a pas de revenus, on sait pas d'une année et d'un mois sur l'autre combien on va gagner. Ça peut être angoissant. Donc on est obligé de produire beaucoup pour s'assurer au moins les avaloirs. Parce qu'on se dit, si je fais 4 bouquins et que j'ai 3000 euros d'avaloir par bouquin, ça me fait au moins 12 000 euros. Parce qu'on ne sait pas combien de droits d'auteur on va toucher l'année d'après, puisqu'on ne sait pas combien de livres vont être vendus. Donc c'est un peu une espèce de revenu sûr et certain sur lequel on peut compter, en espérant que les droits d'auteur vont être plus importants pour pouvoir se dire, ah chouette, cette année j'ai touché beaucoup, c'est bien, je suis contente. Donc voilà, c'est un peu délicat, c'est quelque chose qui met beaucoup de pression. Il faut essayer de pas trop y penser parce que je pense que ça peut bloquer la créativité si on y pense sans arrêt et qu'on voilà, on change de métier dans ces cas-là. On le fait aussi beaucoup par passion, mais je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, il y a une forme d'épuisement qui arrive quand on est obligé de produire autant, avec finalement des résultats qui sont pas forcément à la hauteur de notre travail en termes de revenus, tout simplement. Et moi, j'étais complètement arrivée au bout là. J'étais en train de chercher un boulot il y a un peu plus d'un an.
Ah oui, complètement. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Petite question qu'on comprenne bien, c'est-à-dire en moyenne, tu vends à peu près combien de milliers d'exemplaires de livres ?
Ça dépend de l'éditeur. Ouais. J'ai pas les mêmes ventes selon les éditeurs, mais bon, globalement, j'ai plutôt des bonnes ventes, hein. Donc je me plains pas parce que je me dis pour les autres, j'ose pas imaginer la situation dans laquelle ils sont. En plus, j'ai eu la chance et c'est ça aussi qui m'a permis de continuer plus sereinement, c'est que j'ai publié un livre en anglais. Et c'est là aussi on voit la différence de métier quand on est auteur français et quand on est auteur anglophone. C'est que ce livre-là, c'est celui-là, qui a été traduit en français. Il a été vendu dans 10 pays. Donc ça multiplie les contrats et les avaloirs par 10 pour un livre. Alors que pour la même chose, il aurait fallu que j'écrive 10 livres en France. Parce qu'on a très peu de traductions, on a un marché qui finalement est restreint à côté de celui d'un auteur anglo-saxon qui peut être traduit et toucher des avaloirs et des droits d'auteur dans plein de pays. Ce qui est très rarement le cas pour un auteur français. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Donc on a un marché qui est plus restreint, donc forcément on touche moins de droits d'auteur puisqu'on a un marché plus petit, qui est aussi largement bouffé par les auteurs anglo-saxons qui eux ont une grosse part de marché. Mais je critique pas, hein, j'en lis plein, donc c'est juste une remarque purement statistique, on va dire. Et voilà, donc ça nous demande énormément de travail. Et c'est vrai que d'avoir pu écrire un livre en anglais et de le vendre dans 10 pays, ça a été une vraie respiration pour moi. Ça m'a permis de me dire, voilà, ça, c'est possible. C'était une nouvelle expérience et ça m'a permis de me dire, bon, bah, je peux être sereine quelques temps et me remettre à écrire et pas chercher un boulot tout de suite.
Comment évolue la situation ? Ça fait une dizaine d'années à peu près que tu publies dans ces
autres. Huit ans.
Huit ans, ouais. Est-ce que tu as vu la situation globalement évoluer en termes de marché, en termes de droits d'auteur ?
Alors, je ne crois pas avoir assez de recul pour ça. Quand on prend quelqu'un comme Alain Grousset, qui lui est auteur depuis plus de 30 ans et qui nous explique que lui, quand il a commencé, un tirage de livres, c'était 30 000 exemplaires d'emblée et que voilà, il dépassait les 100 000 ventes en quelques semaines. Et c'est une autre planète pour nous. Nous, quand un éditeur il met 3 000 de mise en place pour notre livre, on est super contents déjà. Voilà, moi j'ai signé avec un éditeur qui m'a assuré 8 000 de mise en place. Quand il m'a dit ça, je me suis trompée, j'ai mal lu ou il a mal tapé dans son mail et je lui ai dit, mais attends, t'es sûre, 8 000 de mise en place ? C'est super rare aujourd'hui, 8 000 de mise en place d'emblée. Voilà, donc sur 30 ans, je pense qu'effectivement, il y a un vrai changement, mais je pense que c'est dû au fait qu'il y a énormément de plus de choix aujourd'hui. Quand on voit le nombre de livres qui sont sur les librairies, le marché est très vaste, mais les ventes sont fragmentées. Ouais. Chaque auteur va avoir des ventes, mais en plus petite quantité, puisque ça va être réparti dans plein de titres différents. Donc voilà, c'est ce que je peux constater. Maintenant, je n'ai pas fait d'études poussées, donc je ne vais pas partir dans des chiffres parce que je ne les connais pas. Je pensais juste à cet exemple que m'avait donné Alain Grousset en me disant, moi, il y a 30 ans, les mises en place, c'était 30 000 exemplaires d'emblée. Quand il a dit ça, j'avais les yeux comme ça. Je fais quoi, 30 000 exemplaires ? Enfin, aujourd'hui, à part des gens comme Marc Lévy ou dans ce genre-là, il y a très peu d'auteurs, ce que j'appelle l'auteur lambda dont je fais partie, on n'a pas 30 000 de mises en place. Donc oui, là, c'est des chiffres qui sont assez... pas très élevé. Quand un éditeur met 3000 de mise en place, on est content, mais 3000, si on les vend, ça va à peine rembourser notre avaloir. Donc voilà, il faut espérer qu'il y ait un retirage derrière pour qu'on puisse commencer à toucher des droits d'auteur. Donc c'est une situation qui est assez tendue, ouais.
Ouais. Et la part un petit peu de désintérêt, parce qu'en jeunesse, il y a pas mal d'interventions scolaires, de salons, à double tranchant, à la fois des sous et puis à la fois des espaces où tu n'es pas devant ton ordinateur.
Voilà, alors disons que l'année dernière, ça s'est bien trouvé, c'est que l'année dernière j'ai eu un livre, c'est Les Sentinelles du Futur, qui a été sélectionné pour 15 prix, dont le prix des Incorruptibles, qui est extrêmement gourmand en rencontre scolaire. Et donc j'ai pu ne pas culpabiliser de ne pas écrire, parce que j'étais devant des classes pendant 6 mois, je n'ai fait que ça, j'étais dans des trains, devant des classes, devant des trains, devant des classes pendant 6 mois. Ce qui m'a permis de pas. Je pense que si j'avais culpabilisé de ne pas écrire, je me serais encore plus bloquée, en fait. J'aurais été très mal en me disant « mais mes projets n'avancent pas, j'ai dit oui à des éditeurs et je ne travaille pas. » Voilà, là, j'avais prévenu mes éditeurs que je ne pourrais pas écrire parce que je savais que je serais beaucoup sur les routes. Et ça m'a permis de continuer finalement à faire mon métier sans me forcer à écrire. Et ça m'a permis aussi de refaire un peu le plein, c'est-à-dire de voir des lecteurs, de parler avec eux, de faire des rencontres. Être auteur, c'est aussi quand même un métier assez solitaire. On est toute la journée tout seul devant notre ordinateur, on n'est pas dans un bureau, on n'a pas de collègues. On a des amis auteurs qu'on voit en dehors, on se fait des dîners, des trucs comme ça. Mais sinon, toute la journée, moi, parfois, je me rends compte que les seules personnes avec qui j'ai parlé une fois que mon fils est parti au lycée, c'est mes chats, quoi. Voilà, ça va être quoi devenir psychopathe, hein. Donc... Du coup, je sais plus où est-ce que je voulais en venir. De dire que voilà, je me suis vraiment nourrie de toutes ces rencontres, de rencontrer du monde, d'avoir l'enthousiasme des jeunes, des lecteurs, de vivre des choses un peu en dehors de chez moi. Je pense que ça m'a permis de refaire un peu le plein de plein de choses. Et puis quand je me suis remise devant mon ordinateur fin juin, début juillet dernier pour me remettre à écrire, parce que j'avais pas le choix, là, j'avais quand même les éditeurs qui étaient prêts à me fouetter pour que je me remette au travail. Mais ça y est, j'avais retrouvé une sérénité, une envie, un besoin même d'écrire et de me dire je suis prête pour un nouveau cycle. Maintenant, combien de temps va-t-il durer ? Telle est la question.
Et le fait d'avoir donc 8 ans de carrière, combien de livres au total ?
Là, pour l'instant, j'en ai 21 qui sont publiés, 24 qui sont terminés. Donc j'en ai un qui sort en septembre, là il est bouclé, il est chez l'éditeur, il part chez l'imprimeur là cet été. J'en ai un 23e qui est fini, qui est en lecture chez l'éditeur, et un 24e que j'ai terminé lundi soir.
Ouf. Est-ce que le fait d'avoir cette bibliographie désormais t'assure un certain revenu par d'anciens titres qui continueraient à se vendre, ou est-ce que le marché est tel que finalement, une fois que le livre est sorti, c'est difficile de compter sur lui l'année d'après ?
Ça rapporte un petit peu, mais pas tant que ça. Il y a tellement de nouveautés qui arrivent. que forcément ça chasse les anciennetés, on va dire. À part si on a des livres qui sont en fond dans des librairies, qui continuent à avoir un... voilà, moi je suis toujours étonnée de voir à quel point La Quête des Livres Mondes, c'est une trilogie qui continue vraiment à marcher, à me rapporter de l'argent, alors que le tome 1 est sorti il y a 8 ans. Donc je ne vais pas me plaindre, merci La Quête des Livres Mondes. Mais ce n'est pas le cas avec tous les livres, et on sent que... voilà, je pense que là-dessus, les réseaux sociaux, c'est un bon rôle. Là, j'ai relancé un petit peu le buzz sur le Mystère Olfit, qui a été un de mes premiers romans publiés il y a 8 ans, en mai 2008. Donc, mes premières imaginales, j'avais été invitée ici pour présenter ce livre. Donc, petite larme de... voilà. Et donc là, j'ai fêté l'anniversaire de ce livre là sur ma page Facebook avec un concours. Donc c'est l'occasion d'en reparler, de ressusciter l'intérêt autour de ce livre, de voir des lecteurs qui me connaissent peut-être avec mes derniers titres, qui se rendent compte que j'ai écrit d'autres choses avant et que ça peut être susceptible de les intéresser. Donc c'est aussi un travail de relancer à chaque fois, de dire « Regardez, j'ai écrit aussi ça, ça existe, etc. » Mais c'est vrai que c'est des livres écrits il y a 8 ans... sauf s'ils sont étudiés en classe ou si, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau... voilà, Les Clés de Babel aussi continuent à beaucoup marcher, mais c'est un livre qui est dans la liste des ouvrages recommandés par l'Éducation nationale, et je pense que ça joue un rôle aussi sur le fait qu'il y ait des profs qui le travaillent en classe avec leurs élèves ou qui proposent à leurs élèves de le lire. Voilà, mais c'est très difficile, mais c'est normal, hein, quand on voit toutes les nouveautés qui font envie sur une table dans une librairie... Puis les libraires n'ont pas la place de garder les vieux bouquins en étagère parce qu'il y a trop de choses qui arrivent, donc forcément ça repart au stock. Ils sont disponibles, mais si on ne les voit pas, on n'est pas forcément au courant qu'ils existent. Donc c'est toujours compliqué, c'est beaucoup de communication.
Ce qui t'amène quand même à faire finalement de ton métier d'écrivain d'autres activités à côté, que ce soit en termes de communication, en termes de rencontres, en termes de salons. Il y a un côté très... je prends mon bâton de pèlerin.
Ah, on est obligé, ouais. Je suis pas sûre que Victor Hugo avait besoin de faire tout ça pour vendre ses livres. Nous, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un vrai travail de communication, d'autant plus qu'en France, on a un élément, je pense, qui, j'espère, va finir par s'imposer, c'est l'agent littéraire. Alors, ça commence. Il y a Samantha Bailly qui a pris un agent. Je ne l'ai pas encore fait. Peut-être qu'un jour, ça me viendra. J'ai un agent en Angleterre pour The Secret Fire, parce que là, c'est un projet anglais, donc eux fonctionnent dans les pays anglo-saxons que par agent. Si on n'a pas d'agent, on ne peut rien faire. On ne peut pas proposer un livre à un éditeur. Ici, on n'a pas d'agent. Et peut-être que ce serait bien de pouvoir déléguer tout ce travail de communication et de négociation de contrat et de toutes ces choses. Finalement, on n'y connaît pas grand-chose parce que ce n'est pas notre boulot. Quelqu'un qui pourrait être là pour nous épauler pour ce genre de choses. Ça choque personne que les acteurs et des agents. Et pourtant, en France, c'est toujours pas rentré dans les mentalités que les auteurs puissent avoir des agents littéraires, à part les très très gros noms. Mais sinon, non, ça se fait pas trop. Donc moi, j'ai pu le voir avec The Secret Fire, le travail de l'agent, ce qu'elle a fait pour le livre, le fait qu'elle l'ait vendu à 10 pays, le fait que dès qu'on a une question sur un truc, j'ai rien compris, elle nous explique, qu'elle négocie chaque ligne du contrat et qu'elle voit des trucs que nous, en tant qu'auteurs, c'est pas notre formation, on n'est pas juriste, on voit pas. C'est, voilà, c'est vraiment quelque chose de... On a beaucoup de casquettes. On est comptable, on est juriste, on est agent, on est on fait de la communication publicitaire, on est obligé de faire d'autres choses que de la pure écriture, ça c'est sûr.
Tu disais, ça bouge un petit peu. Est-ce que ça bouge assez? C'est-à-dire qu'en gros, on entend de plus en plus des auteurs tirer la sonnette d'alarme en disant, bah voilà,
là, on va finir par disparaître.
J'ai un problème, voilà. Exactement. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que le fait que, par exemple, le CNL demande au salon de payer les auteurs qui viennent en conférence, ça change quelque chose?
Bon, non, je crois pas que ce soit la décision la plus marquante pour nous. On fait pas, à moins de faire des salons toutes les semaines, je pense pas que ce soit, d'un point de vue financier, ce qui va changer notre situation. Je pense que... moi, déjà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on change notre système de sécurité sociale. Je pense que ce serait très appréciable qu'on n'ait pas à payer la sécurité sociale de notre poche et donc de penser qu'on a gagné tant d'euros. Et en fait, bouf, d'un seul coup, on dit « Ah, maintenant, il y a 2000 euros en moins qui vont partir aux AGSA parce qu'il faut bien qu'on ait une couverture sociale. » Voilà. Déjà qu'on ne gagne pas beaucoup. On a aussi... On râle contre la retraite qui a été augmentée, c'est-à-dire que là, ils veulent nous faire payer 8% de nos revenus totaux pour la retraite, ce qui est beaucoup, 8% quand même. Hein. Quand on ne gagne pas beaucoup, ça fait quand même encore plus moins d'argent. Je ne trouve pas que ça bouge beaucoup, d'autant plus qu'on a très peu de moyens de pression, même si on se dit « Ok, je fais la grève et j'arrête d'écrire », c'est pas grave. Hein. Il y en a plein des auteurs dans d'autres pays, tout ça, ça fera... Je ne pense pas qu'on manquera des masses. Donc on a très peu de moyens de pression. On n'a pas de syndicat pour nous regrouper et se dire... Alors, il y a la charte qui fait des choses, il y a le CNL qui tente d'autres choses, mais je pense qu'il y aurait besoin d'un remaniement fondamental de notre statut pour que les choses aillent mieux pour nous. Bah, peut-être interdire que certains éditeurs proposent des pourcentages à 5-6% que des auteurs débutants acceptent parce qu'ils sont trop contents d'être publiés et qu'ils se disent « Ouais, je suis prêt à accepter n'importe quoi juste pour avoir un livre parce que j'en avais envie, c'est un rêve », ce que je comprends. Hein. Mais voilà, déjà, nous, quand on arrive à... Moi, maintenant, je l'impose, hein, je dis à mes éditeurs, je travaille pas en dessous de 8%. Voilà, c'est fini. Parce que je considère qu'après une vingtaine de bouquins, une vingtaine de prix littéraires, je peux me permettre de dire « Ok, vous voulez bosser avec moi, mais voilà mes conditions ». Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus demander des choses... Moi, je vais pas débarquer en disant « Oh, je veux 15% ». Voilà, on va me dire « C'est ça, allez, ciao ». Donc... Donc voilà, c'est toujours très compliqué, mais c'est déjà bien qu'on puisse s'exprimer sur le sujet. Je pense qu'à une époque, on ne le faisait pas, peut-être qu'on avait peur de le faire, peut-être qu'on n'avait pas d'écoute. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut partager plus les articles et les témoignages à travers les réseaux sociaux, et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est bougé de façon... démente pour l'instant, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose de mieux plus tard. Hein, mais...
Quand on discute avec des éditeurs ou des libraires, il y a une vraie discussion, il y a une véritable écoute ou les choses ne changent guère?
Non, c'est-à-dire que les éditeurs vont dire « Oui, j'ai conscience que c'est dur, mais ça ne veut pas dire qu'ils font tellement d'efforts pour que ça change. » Après, j'imagine qu'eux aussi, ils ont leur impératif économique et qu'une fois qu'ils ont fait leur budget en décidant que c'était tant de pourcentage pour l'auteur, c'est difficile de changer, j'en sais rien. Je sais pas trop. Je suis pas trop dans les petits papiers des éditeurs. À partir du moment où moi déjà je me dis j'arrive à m'en sortir comme ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, mais ce qui est bien aussi, c'est que je pense qu'aujourd'hui il y en a aussi beaucoup de dialogue entre auteurs. Peut-être qu'à une époque on l'avait moins. Maintenant on se voit en salon, on peut se voir en dehors, on dîne ensemble, on prend des verres, on s'envoie des mails, on s'appelle, on partage nos expériences aussi. Et je pense que ça nous permet aussi de voir ce que l'autre a fait, de se dire tiens bah ouais ça c'est pas mal, faudrait que j'essaye ou dire fais attention là, te laisse pas faire, voilà. Donc déjà là-dessus, je pense que c'est un mieux et ça nous permet de nous entraider et de parler de tout ça pour qu'on puisse se conseiller et se soutenir. C'est déjà ça.
Qu'est-ce qui fait que toi, après cette angoisse, cette panne, entre guillemets, tu t'y es remis?
Alors,
c'est quoi le déclic?
Alors déjà, il y a le fait que ça m'a manqué finalement de pas écrire. Parce que c'est quelque chose, quand on en prend l'habitude, et c'est une passion avant tout. Hein. C'est vrai que maintenant, c'est un métier aujourd'hui, mais ça a commencé comme une passion. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais 8-9 ans. J'ai jamais arrêté. Les premiers livres que j'ai publiés, je les écrivais la nuit. J'allais au bureau dans la journée, j'avais un travail. Donc j'ai vraiment fait ça à côté. Et puis un jour, c'était plus possible de gérer les rencontres scolaires, les salons, les demandes des éditeurs qui étaient de plus en plus nombreuses, donc de plus en plus de livres à écrire. Et c'était... des propositions, quand on rêve de faire ça, qu'on ne peut pas refuser. Donc, il y a un moment, j'ai fait un choix en me disant j'arrête mon travail et je me consacre uniquement à l'écriture. Donc, cette passion-là, elle ne m'a pas quittée, même si j'ai fait mon petit burn-out et qu'il y a un moment où je me suis dit on m'a volé mon rêve. Enfin, je suis partie dans un truc un peu dépressif et tout. Et puis, finalement, je pense que les gamins, quand on les rencontre en classe, ils sont super, quoi. Ils nous redonnent envie. On se dit qu'on le fait pour eux aussi, pour les lecteurs, pour leur enthousiasme, pour voir leurs étoiles dans les yeux et de se dire finalement quand j'écris c'est pas toute seule dans mon coin comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Donc là cet échange il a été très nourrissant. C'était pas la première fois que je le faisais, mais je pense que là c'est tombé à point nommé, c'est-à-dire que ça m'a vraiment permis de me ressaisir, de me reprendre et me dire tu vois, tu le fais pas pour rien, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui sont là pour dire continue, donc c'était une bonne chose. Comme je dis, il y a le manque, parce que j'avais toujours des idées dans la tête, hein, mais c'était juste que l'idée de me remettre devant l'ordinateur et d'écrire, j'étais bloquée, quoi. Donc il fallait... Mais là, elles étaient là, elles voulaient sortir. Et puis, comme je dis, il y avait toutes ces propositions, des nouveaux contrats avec des nouveaux éditeurs, donc des nouvelles aventures, l'envie de voir ce que ça pouvait donner. Et puis des livres, des projets de livres sympas. Certains qui étaient déjà programmés avant, que j'ai dû finir vite, vite, parce que j'étais super à la bourre. D'autres que j'ai pu prendre le temps d'écrire là cette année-là. Mais voilà, là, c'était une bonne année. Là, j'ai fait quasiment pas de rencontres scolaires. Je me suis consacrée à l'écriture pour pouvoir rattraper tout le temps perdu. Enfin, pas perdu, mais le temps pendant lequel j'ai pas écrit. Et voilà, comme je dis, là, j'ai bouclé 5 bouquins en moins d'un an. Donc, quand je repars. Mais voilà, après, il faut pas non plus... Il faut que je fasse attention de pas m'user à nouveau, je pense.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé du coup pour toi, que ce soit dans la pratique de l'écriture ou dans la discussion avec les éditeurs?
Je pense que j'essaye de m'imposer un peu plus auprès des éditeurs. Mais je pense aussi que c'est parce que j'ai 8 ans de recul et que j'ai des livres qui ont bien marché, que j'ai eu pas mal de prix littéraires et que quand j'arrive, j'ai l'impression d'avoir quand même ma place. Aujourd'hui, j'impose pas, mais je dis que voilà, quand je dis que je veux pas travailler sous 8% de droits d'auteur, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait quand j'ai débuté. Quelle légitimité j'avais à ce moment-là pour dire « Oh non, 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 moi j'arrive, je fais ma petite loi, etc. » Voilà, hier j'étais chez un éditeur et j'étais pas du tout d'accord avec la couverture que je trouvais affreuse. Et j'étais assez virulente. Peut-être que je me serais pas permise d'être virulente comme ça il y a quelques années, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai du recul, j'ai de l'expérience. Voilà, le fait d'avoir une expérience internationale aussi avec ce bouquin, je pense que ça m'a appris plein de choses sur comment on pouvait travailler à côté, comment on pouvait travailler avec d'autres, avec un agent, avec un autre auteur, puisque c'est une coécriture avec une auteure anglo-saxonne, avec dans d'autres pays, donc c'est super enrichissant. On a l'impression d'avoir un poids aussi, c'est-à-dire qu'après, quand les éditeurs ils viennent me chercher parce qu'ils savent que j'ai été pour l'instant traduite dans 10 pays, etc., je me dis, bah, c'est aussi ça qu'ils veulent de moi, donc je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, je vais leur dire, ok, si vous voulez travailler avec moi, d'accord, il n'y a pas de souci, je suis partante, moi je suis en plus, voilà, je suis tout le temps super motivée pour faire plein de trucs et tout, mais je pense que je me laisse moins faire qu'avant, oui, ça c'est sûr.
Tu as fait un état des lieux de ta position d'auteur, qu'un état des lieux du monde aujourd'hui, de la littérature et des littératures de l'imaginaire et de la littérature jeunesse. Quelles sont un petit peu pour toi les solutions? Qu'est-ce qu'il faudrait dans l'idéal?
Déjà, je pense qu'on fait le même métier qu'un auteur adulte. Donc, quand un auteur adulte est direct à 10%, je vois pas pourquoi nous, on ferait pas des bouquins à 10%. Je pense que c'est pas une différence énorme, on demande pas la lune. Déjà, ce serait un petit mieux en termes de droits d'auteur. En plus, je pense qu'on écrit, enfin, c'est pas parce qu'on écrit pour la jeunesse qu'on écrit moins bien, ou je pense qu'on en y apporte autant de temps, de soins, de passion, peut-être parfois plus, parce qu'on sait qu'on s'adresse à un public jeune et on veut faire attention, pas se limiter, mais se dire, il faut que ce soit soigné, je peux pas faire un truc, voilà, c'est des jeunes, je veux leur proposer un beau travail, parce que c'est important, parce que c'est une image positive, parce que c'est un exemple, enfin voilà, il y a tout un... Donc voilà, en plus je sais que la littérature jeunesse c'est la plus grosse part de marché en termes de vente de livres, donc après tout on rapporte de l'argent, donc on pourrait aussi en bénéficier. Donc je pense que rien que ça, ce serait un petit pas, c'est pas énorme, mais ce serait déjà un petit pas qui nous conforterait dans notre légitimité d'auteur, dans le travail qu'on fait. Voilà, l'histoire des pourcentages inférieurs pour les auteurs jeunesse, ça venait de l'époque où il y avait souvent un illustrateur qui était... à coller à l'auteur, parce que les livres étaient souvent illustrés à l'époque et que les droits d'auteur étaient partagés entre l'auteur et l'illustrateur. Et puis au moment où on a décidé qu'il n'y avait plus d'illustration dans les livres jeunesse, on a gardé le même pourcentage pour l'auteur et on ne l'a pas redispatché. Donc du coup, on reste à quelque chose qui était avant divisé pour deux personnes. Aujourd'hui, on est seul. Voilà, c'est des petites choses simples. Comme je dis, j'aimerais bien aussi que... Après, ça, c'est compliqué. J'y connais pas assez grand-chose pour pouvoir le faire. Mais voilà, tout le système des AGSA, pour moi, c'est une catastrophe. Mais je pense qu'on est très nombreux à le penser. Voilà. Donc, voilà, c'est des choses qui, je pense, pourraient déjà nous faciliter la vie si, ne serait-ce que la sécurité sociale, elle a été ponctionnée sur une pseudo-fiche de salaire comme... Je veux dire, j'ai été pigiste pendant des années, donc j'avais pas de contrat de longue durée, et pourtant j'avais des fiches de salaire avec les charges comme n'importe quelle. Pourquoi est-ce qu'on serait pas payé dans le même genre de comme un pigiste avec une mutuelle, une sécurité sociale qui sont pris à la source, qui nous réviterait de faire un chèque derrière avec l'impression que dire j'ai compté sur cet argent-là pour payer mon loyer ou des choses comme ça, et maintenant je peux pas. Voilà, c'est des choses qui seraient peut-être compliquées, mais en tout cas qui ne me paraissent pas être impossibles, puisqu'on a des modèles qui prouvent que c'est possible ailleurs. Voilà, mais bon, comme je dis, je ne suis pas une spécialiste, moi je suis juste auteur. donc je pense, j'ai pas une parole d'évangile ni rien du tout, c'est juste des choses que je vois de mon point de vue, et puis quand je discute avec mes amis auteurs, et quand je vois comment, à chaque fois qu'on doit remplir notre déclaration à GSA, on est tous en train de pleurer, et que... On n'est pas comptable, voilà. Et le nombre de fois où on se fait renvoyer notre déclaration parce qu'on a mis un truc faux et on se dit « mais je comprends rien », des choses comme ça, c'est assez courant, même ceux qui sont dans le métier depuis très longtemps. Donc j'imagine qu'on pourrait simplifier beaucoup les choses pour nous éviter des erreurs, des choses compliquées, à se retrouver sans couverture sociale d'un jour sur l'autre ou des choses comme ça. Voilà.
D'accord.
Bon, je ne sais pas si c'était utile ce que j'ai dit.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce qu'on a été assez clair? Oui. Hop, attendez, je vous apporte le micro. Un, deux, il marche.
Oui, donc moi j'avais une question par rapport au fait que vous dites que vous écrivez énormément de romans en peu de temps. Est-ce que vous écrivez plusieurs romans différents pendant une certaine période?
En même temps?
Ouais.
Non, jamais. J'écris jamais de romans en même temps. D'accord. Je suis très concentrée sur celui que j'écris. Déjà, je pense que c'est une meilleure qualité de pouvoir être complètement immergée dans son histoire. Il y a peut-être des gens qui le font. Hein. Après, je dis pas que ma méthode est meilleure que celle d'une autre. Moi, je peux pas écrire deux histoires en même temps. Quand je peux travailler sur deux romans en même temps, c'est quand je suis dans la phase correction avec l'éditeur d'un côté, parce que là, c'est pas créatif, c'est presque mécanique. On a les avis, les propositions de l'éditeur en marge, et puis on se dit oui, je le fais, non, je le fais pas, oui, il a raison, non, il a tort. Et là, voilà, on n'est pas dans la création, on n'est plus en train d'écrire le livre, on a moins besoin d'être immergé dans l'univers, on est plus dans le détail, le fignolage. Donc là, oui, je peux me dire, ce matin, je corrige le roman, et puis l'après-midi, j'écris l'autre. Mais écrire deux romans en même temps, je préfère vraiment être immergée dans une histoire. Je suis obsédée par mon histoire, par mes personnages. Ils vivent avec moi, je mange avec eux, je dors avec eux. Heureusement que j'ai un grand lit. donc c'est vrai que c'est difficile. Enfin, j'aurais eu du mal à séparer mon cerveau. Par contre, je sais que même si je suis très immergée dans une histoire, ça m'empêche pas de savoir que le prochain roman que je vais écrire et auquel je pense déjà dans un petit coin de ma tête continue, lui, à tourner presque de façon inconsciente pour que le jour où je vais m'y mettre, il y ait quelque chose de déjà prêt, en fait, et que je sois prête à m'y mettre. Mais j'écris jamais deux romans en même temps. Ah, non. J'imagine qu'il y a des auteurs qui peuvent le faire. Hein. Ils sont peut-être capables de compartimenter de façon très efficace, mais moi, j'aime bien être vraiment à fond dans une histoire. Voilà, être... ne penser qu'à ça et pouvoir... et pouvoir vivre à travers cette histoire autant que mes personnages en espérant y apporter le plus de justesse possible.
Bonjour. Une petite question à propos du Feu Secret, donc une collaboration comme vous le disiez. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec l'autre auteur et surtout comment vous vous êtes organisés, quels étaient vos rôles et...
Alors CJ est une auteure, elle est américaine mais elle vit en Angleterre depuis tellement longtemps, donc on va dire qu'elle est américaine, qu'elle est anglaise. Elle a publié une saga qui s'appelle Night School dans la collection R où je suis aussi publiée, et donc on a été amenés souvent à signer à côté en salon puisqu'on était sur le stand de Robert Laffont ensemble et on s'est très très bien entendus. Et une fois, c'était après le salon du livre de la Porte de Versailles à Paris en 2013, je crois, si je ne me trompe pas. On a fait une méga séance de dédicace et ensuite on a pris un café ensemble et on est parti dans un délire en se disant « et si on écrivait un livre toutes les deux ?» Et c'était un délire vraiment, hein, parce qu'elle est anglaise, elle ne parle pas un mot de français et on n'a pas la même culture, on n'a pas le même pays, etc. Et puis finalement, on est parti dans l'aventure. Donc tout a été fait par email. Nos personnages, moi j'ai créé le personnage français qui est le garçon, elle a créé le personnage anglais qui est la fille. Comme ça on a apporté chacune de notre culture, sans rentrer dans les clichés, hein, au moins comme ça le français c'est pas le français avec le béret, la baguette et le camembert sous le bras. J'espère y avoir apporté un peu plus d'authenticité. Et elle a vraiment rentré dans son univers anglais avec une description des environs de Londres, d'Oxford, etc. Donc ça, c'était super. Et nos deux personnages commencent à se rencontrer en étant correspondants, en fait. Et c'est ce qu'on a fait. On a été correspondantes pendant toute l'écriture du roman. On aurait pu se skyper pour discuter de vive voix de nos idées et tout. Mais à chaque fois, on a tout fait par écrit. Donc on a tout le développement de l'histoire. Alors ça a commencé par un chapitre sur deux. C'est-à-dire que moi, j'écrivais mon chapitre. C'est le premier du roman avec Sacha, mon personnage. Ensuite, elle écrivait un chapitre avec Tyler et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, on a un peu remixé tout ça pour pas que ce soit trop linéaire, que ce soit pas forcément un chapitre sur deux. Le livre, la version originale, est en anglais. Donc il a été publié avant tout en Angleterre. Il a été traduit, pas par moi, hein, par des traductrices. Donc j'ai été traduite en français. Voilà. C'était un peu bizarre. J'ai eu un droit de regard sur la version française quand même, mais voilà. Donc ça a été une vraie... Il y a le deuxième tome qui va sortir à la rentrée. Et ça a été une super aventure, très enrichissante humainement déjà, parce que c'était la première fois que je co-écrivais un livre avec quelqu'un, donc ça me sortait un peu de ma solitude, et de partager ses idées, et de pouvoir s'approprier aussi les idées de l'autre, je pense que c'était quelque chose de super. Et ça a été pour moi aussi une expérience de me dire, voilà ce que ça fait d'être auteur anglo-saxon. J'ai pu me mettre dans les chaussures d'un auteur anglo-saxon, de voir ce que c'était que d'avoir un agent littéraire, d'avoir des mails tous les deux mois qui nous annonçaient, oh, ben, on a signé avec la Thaïlande, on a signé avec le Brésil, on a signé... D'accord, ok, très bien, voilà. Voilà, donc c'est une super expérience, et du coup je vais la renouveler. Là j'ai un autre projet en anglais, toute seule cette fois, avec l'aide d'une traductrice, on va voir ce que ça va donner. Mais ça m'a permis un peu de sortir des clous, peut-être du chemin tout tracé qu'ont les éditeurs français, les auteurs français, à compter sur leurs éditeurs qui sont censés leur apporter des traductions, puisque c'est l'éditeur qui se substitue à l'agent pour ça en France. On cède nos droits étrangers à notre éditeur, ce qui fait qu'on attend de lui qu'il nous trouve des traductions, ce qui fait, il faut bien être honnête, rarement, voilà. Donc là, j'ai pu sortir un peu de tout ça, et c'était vraiment chouette. Du coup, ça m'encourage à continuer, parce que je pense que... Et j'en parle avec tous mes potes auteurs en leur disant, mais essayez de faire quelque chose pareil, essayez vous aussi de sortir de ça, parce que je pense que si on ne fait pas nous, si on n'essaye pas de faire... De sortir de nos frontières, hein, pas seulement pour nous en tant qu'auteurs, mais parce qu'on a une belle littérature, on a des bons livres, on a des bonnes idées, et ils ne voyagent pas. On a tout qui nous vient des États-Unis et un peu aussi d'Angleterre. On est assez inondés par toutes ces littératures, que je lis aussi, mais je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas leur rendre l'appareil et leur dire, voilà, nous aussi, on a des bons auteurs, nous aussi, on a des bonnes histoires. Regardez ce qu'on fait, vous pourriez le lire. Et ça, on ne peut pas le proposer. On ne peut pas faire rayonner notre littérature. Et je trouve que c'est dommage.
Bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre intervention, c'était très instructif.
De rien.
Vous avez parlé de la problématique du pourcentage sur le livre papier et qui est embêtant pour l'auteur parce qu'il est très bas, mais quid du livre numérique ?
Alors, le livre numérique, on a la chance quand même de pouvoir demander des pourcentages forcément plus importants puisque l'éditeur n'a plus à dépenser d'argent en stock, en papier, etc. Donc là, c'est vraiment chaque éditeur qui va établir son contrat. Je sais qu'avec Syros, au début, ils voulaient nous proposer le même pourcentage que sur le livre papier. Et on a fait une coalition d'auteurs Syros et on leur a dit que c'était niette. Et on a négocié âprement nos droits d'auteur numériques. Et maintenant, c'est devenu la norme. Là, j'ai plus de soucis. Je crois que c'est rentré un peu dans la norme de la part des éditeurs. Peut-être qu'au début, ils ne savaient pas trop parce que c'était nouveau, qu'ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Cela dit, je ne sais pas si pour la jeunesse, la problématique se pose vraiment dans le sens où on n'a quand même pas trop de ventes numériques en jeunesse. Je pense que les gamins, ils préfèrent avoir le livre papier. Ils n'ont pas forcément des tablettes ou des liseuses. Ou alors, s'ils ont un iPad, c'est pour jouer aux jeux, machin, Candy Crush, je ne sais pas quoi. Et peu pour lire, en fait. Le livre est encore un objet en papier, je pense, en jeunesse. Et souvent aussi, c'est les parents qui l'achètent. Les grands-parents, ils font un cadeau, des choses comme ça. Donc ça reste quand même le livre papier, à mon avis, encore assez important en jeunesse. Je parle vraiment en jeunesse. Hein. Je ne sais pas quel est le... Mais je le vois bien, hein. Je vends quelques livres numériques. J'en ai des ventes numériques, mais c'est loin d'être la majorité. Tout ce que je vends majoritairement, c'est du papier. Donc on arrive à négocier nos droits, mais je ne crois pas qu'à notre niveau, ça change enfin, des choses. C'est pas... Voilà, c'est pas encore le truc dément qui vaut le coup de faire la révolution, en tout cas pour l'instant.
Il nous reste le temps pour une dernière question. Une fois, deux fois, trois fois. Et ben, on va remercier Karina. On va vous inciter
à aller,
aller découvrir ses livres en dédicace. Merci à vous.